Cette question qui est abordée dans l'Évangile est bien délicate. C'est la question de la correction fraternelle. Ce qu'on appelle la correction fraternelle, c'est exactement ce qui vient d'être décrit là par Jésus, c'est d'aller voir l'autre, quelqu'un qui a commis un péché contre toi. Donc c'est assez vaste, et de lui dire, voilà, va lui faire des reproches, seul à seul. Et donc il y a une progressivité dans cette correction fraternelle, d'abord seul à seul, ensuite avec la parole de deux ou trois témoins, et devant l'assemblée de l'Église. Disons-le simplement, ce n'est pas quelque chose qui se pratique alors que c'est dans l'Évangile. Et moi qui vis en vie religieuse, avec une communauté de frères, c'est rare que je sois interpellé sur ma manière d'agir. Et donc, ça veut peut-être dire aussi une certaine indifférence ou une certaine manière de concevoir les choses ou les personnes, mais qui est sans une attention particulière l'un à l'autre. Et donc c'est intéressant de pouvoir se dire, est-ce que pourquoi au fond on va rarement voir des personnes pour leur dire, écoute, il y a telle chose, telle de tes attitudes qui me fait souffrir, parce que c'est aussi important. Comment est-ce qu'on va faire et on va procéder pour la correction fraternelle? Parce qu'une chose, c'est d'aller de façon agressive. Pourquoi tu as fait cela? Tu as fait cela? Le tu qui tue. Ou alors, écoute, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ce comportement, avec cette attitude. Ça me met dans la difficulté, ça me met dans la gêne, ça me fait souffrir. Et du coup, je pense que c'est déjà dans la manière d'aborder la chose. Mais souvent on ne le fait pas, parce que non seulement peut-être on n'a pas la bonne manière, et souvent, et c'est là où le moment le moins opportun en tout cas, c'est ce qu'on choisit, et souvent sur le coup de l'exaspération de telle ou telle attitude, et du coup ça sort, voilà c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est l'importance d'avoir des temps dans la vie de couple, comme nous en avons dans notre vie religieuse, dans notre vie fraternelle, des temps où on peut vivre cette correction fraternelle. Je pense par exemple, peut-être certains nombre d'entre vous connaissez les équipes Notre-Dame. Dans les équipes Notre-Dame, il y a ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir. Dans le devoir de s'asseoir, il y a les époux prennent du temps pour eux, parlent d'eux-mêmes, et disent voilà, qu'est-ce qu'on a vécu, à la fois de beau et de se remercier, etc. Qu'est-ce qui peut-être m'a coûté dans tel ou m'a fait souffrir dans telle ou telle de tes attitudes. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas, je dirais, sauf cas très exceptionnel. On attend que la coupe soit pleine pour pouvoir déverser son venin, et c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Mais il y a une autre raison, pas seulement pour la manière de procéder, mais qui est plus grave celle-là, c'est qu'en fait, on n'est pas tellement concerné par l'autre. L'indifférence. L'indifférence qui va faire que, voilà, celui-là, celle-là, elle a telle manière de faire, etc. Bon, finalement, dans la plupart des cas, on esquive, c'est-à-dire quelqu'un avec qui, à moins qu'on soit en famille, du coup on ne peut pas choisir sa famille, mais en dehors du cas où ses collègues, et même entre collègues, on peut aussi esquiver, voilà, d'une manière ou d'une autre, c'est quelqu'un que je mets de côté dans ma vie. Et ça, c'est plus grave parce que, premièrement, c'est plus grave parce que c'est une indifférence et donc ça t'a dureté de cœur. Et ça, on est souvent concerné par ça. On voit chez l'autre des comportements qui ne sont pas opportuns et pourtant on ne dit rien. Et du coup, on laisse l'autre s'enferrer et puis d'autres, et puis ça va aussi avec la médisance. Hein, du coup, ah, t'as vu celui-là, comment il parle, etc. Voilà, donc, mais personne va voir et se préoccupe au fond de son salut. Parce que derrière ce que dit Jésus, c'est ça, c'est la question de son salut. Va voir, et c'est ce que rappelle la première lecture d'Ézéchiel, voilà, avertis-le de ma part, voilà, si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, tu l'abandonnes à sa conduite mauvaise, hein, et il mourra dans son péché. Alors je pense que peut-être on peut être interpellé, mais en même temps on sait bien que c'est très délicat cette question de correction fraternelle en couple, parce qu'on a une susceptibilité ou une sensibilité qu'on appelle, ça dépend comment on l'appelle. de chacun qui fait qu'on réagit parfois de façon excessive. Mais en tout cas, si ça se présente, je pense que c'est bien s'il y a un cadre pour ça. Je pense, par exemple, dans le monde professionnel, il y a l'entretien annuel d'évaluation, vous voyez. Et dans l'entretien annuel d'évaluation, alors on se base sur la partie professionnelle, mais on sait bien que nous sommes une unité. Et parce que nous sommes une unité, ce que l'on vit peut-être à la maison, on le transporte aussi au bureau, à l'usine, voilà, ou sur notre lieu de travail. Et du coup, il peut y avoir dans ce cadre-là quelques rappels sur un certain nombre d'attitudes qui ne sont pas opportunes, et donc certaines corrections fraternelles. Parce que l'avantage, c'est qu'il y a un cadre. Mais comme il y a peu de cadres, et en famille, il n'y a pas de cadre du tout, et dans la vie amicale non plus, ce qui fait on s'éloigne de celui, finalement, je le laisse mourir dans son péché. Alors c'est une manière de dire assez puissante d'Ézéchiel. En fait, son salut m'importe peu. Que l'on le critique, qu'il s'isole, ça m'importe peu. Maintenant, une fois la question de la correction fraternelle un peu abordée, la question de la réconciliation, parce que c'est la deuxième étape de la correction fraternelle, c'est ce que nous dit Jésus, hein, ce que vous pardonnez, voilà, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux, etc. Bon, la question de la réconciliation. Premièrement, la différence entre pardon et réconciliation, c'est pas pareil. La réconciliation, il faut au moins être deux. Le pardon, non. On peut très bien être dans une démarche. C'est toujours, je vais dire, c'est pas on peut, c'est toujours une démarche personnelle, le pardon. Parce que, imaginons qu'on ait eu on ait encore de la rancœur avec un être cher qui est défunt, il n'y a pas de réconciliation possible. Ou une personne qui est à l'autre bout de la planète, ou une personne tout simplement qui ne reconnaît pas la difficulté, son propre péché. Mais donc le pardon est toujours possible. Ça c'est toujours important, parce que c'est un chemin intérieur. Et à quoi est-ce que je vois que j'ai pardonné? Peut-être deux signes qui peuvent être comme les signes d'un pardon ou d'un... Premièrement, c'est penser à l'autre, à celui qui m'a blessé, penser à l'autre paisiblement. C'est-à-dire que quand je fais mémoire de la personne qui m'a blessé, etc., il n'y a pas cet océan de violence qui peut-être, quand la personne m'a blessé, a atteint ma réputation, par exemple, a fait du mal à mes proches, etc., que sais-je, que j'avais au moment même où le fait s'est passé. Je sens que j'ai été apaisé. Je sens que ma colère est descendue. Et c'est normal d'exprimer sa colère. Ça fait partie des étapes du pardon, qu'on exprime sa colère. Parce que face à la colère, c'est quoi? C'est face à un mal présent. Face à un mal, voilà. En fait, être en colère, c'est aussi dire ce à quoi on tient. Je dis ça parce qu'on a parfois une fausse idée de la colère. Il faut pas du tout être en colère. Non. Regardez Jésus, il tient à la maison de son père, etc., les vendeurs du temple, etc., ne faites pas de la maison de mon père une maison de brigands, voilà, donc, ben c'est parce qu'il y a que, dans la colère, on montre ce à quoi on tient, parce qu'on est indigné, il y a une forme, ça c'est plutôt une indignation, mais qui est un moteur, la colère, mais qui est aussi un moteur important dans le pardon et la réconciliation, de mettre la main sur sa colère, parce qu'on fait du mal à quelque chose auquel on tient ou à quelqu'un à qui on tient. Et puis un deuxième critère qui est intéressant aussi pour le pardon, c'est se réjouir du bien que l'autre peut, dont l'autre peut bénéficier, ou s'attrister du mal qu'il affecte. Et donc du coup il y a une certaine empathie envers l'autre. Je ne le vois plus comme celui qui m'a blessé, qui a blessé un de mes proches, qui a sali ma réputation, qui me critique, etc. Je le vois comme une personne humaine. J'ai peut-être eu l'occasion de vous le dire, mais pendant 10 ans, moi, j'étais aumônier de prison en Amérique latine. Et j'ai toujours aspiré à, pour le coup, une réconciliation. Vous avez là des personnes qui ont fait le mal et l'ont fait gravement, déjà envers eux-mêmes, et envers la société, et envers des victimes, etc. Et il m'est arrivé d'avoir des rencontres comme ça avec des victimes. Et je me souviens en particulier d'une histoire d'un prisonnier qui était en plus atteint du sida, etc., et qui avait fait une lettre où il demandait pardon. Il avait, sous l'empire de la drogue, attaqué un bar-tabac pour voler, pourquoi 20 euros, vous voyez, c'est ce genre-là. Et il avait tué le propriétaire du bar-tabac, etc. Et providentiellement, j'avais rencontré sa fille, la fille de ce propriétaire défunt. Et du coup, je lui dis, écoute, voilà, j'ai rencontré la fille de celui que tu as assassiné. Voilà. Ce serait bien que tu écrives une lettre. Alors je reviens une fois, deux fois, je vais régulièrement chaque semaine. Voilà. Puis un jour, il me tend une lettre. Bon, ben, déjà, c'est déjà un gros effort. Bon. Et c'est intéressant, dans sa lettre, il dit, je ne suis pas qu'un assassin. Je ne suis pas qu'un assassin. Et donc, je remets cette lettre à cette femme dont le papa était décédé brutalement, etc. Et je lui dis, voilà, moi je suis au milieu de prison, je sais que votre papa était dramatiquement tué, etc. Bon. Mais celui qui a fait ça veut vous écrire, vous a écrit, et voilà la lettre. Cette personne dont je vous parle, cette femme, elle est catholique, pratiquante, etc., mais elle me dit, vous savez, ça a explosé complètement notre famille, et maman en est morte de chagrin, c'était 35 ans, 40 ans de mariage, ma soeur en a fait une dépression, voilà, toute la famille s'est effondrée et on le comprend avec un traumatisme pareil. Je lui dis, lisez la lettre. Et je repassais régulièrement rencontrer cette femme, je lui dis, mais est-ce que vous avez lu la lettre? Mais même lire la lettre, c'était compliqué. Et j'ai dû revenir en France après 10 ans passés là-bas, elle n'avait toujours pas ouvert la lettre. Parce que ouvrir la lettre, c'est forcément un contact avec celui qui a causé la destruction de sa famille. Bon, je suis personne pour juger, bien sûr, et on comprend bien dans des cas extrêmes, mais je trouve que c'est important dans des... Justement, là, on le voit de façon extrême, mais même dans des choses plus simple de la vie quotidienne, des offenses qui nous sont faites, que l'on puisse, et c'est une autre étape du pardon, qu'on ait une certaine empathie avec l'agresseur. De le revoir non pas comme celui qui m'a fait souffrir, celui qui m'a fait perdre mon job, celui qui a atteint ma réputation, celui qui, je ne sais quoi, qui a fait du mal à ma famille ou d'une manière ou d'une autre, mais que l'on ait, il est aussi ça, mais qui ait une certaine empathie. Et je trouve qu'une étape du pardon, c'est précisément quand on se met à la place de l'autre. Je me souviens comme ça avoir regardé une vidéo d'un procès aux États-Unis, etc. Et le père, voilà, le père de quelqu'un qui avait été assassiné, l'assassin était aux assises, et lui disait « Je hais le système qui t'a mis une telle violence dans mon cœur, mais à toi je te pardonne. Mais je hais ce système-là qui a généré cette violence excessive qui a fait qu'il a enlevé la vie de mon enfant. » Et je trouve qu'il faisait bien la différence entre le milieu dans lequel, on imagine marginal, dans lequel cet assassin avait évolué, et la personne. Vous savez, on juge toujours des actes, on ne juge pas des personnes. Dans le droit français, dans les droits... aussi anglo-saxon, je veux dire, c'est des homicides, c'est des vols, c'est pas un meurtrier, c'est des actes que l'on juge et qu'on évalue, et ensuite il y a une peine en fonction de l'acte. Mais c'est toujours important de se dire que, dans des cas moins dramatiques, qui la plupart du temps c'est nos cas, je veux dire, des frictions, des tensions, voilà, mais qu'on revoie l'autre comme une personne. Et parce qu'on revoit l'autre comme une personne, ça aide beaucoup à rentrer dans une dimension de pardon. Parce que précisément, c'est parce que je me mets à la place de l'autre. Qu'est-ce qui a fait une violence? Qu'est-ce qui a fait que voilà, ça, cette personne a pu... Et ça aide aussi à apaiser d'une certaine manière. Parce que je me mets à sa place et je suis dans une attitude d'une certaine... Oui, empathie, on peut dire. En tout cas, quand on arrive là, ça veut dire que vraiment le chemin de la réconciliation a été fait. Parce que le cœur est apaisé. Le cœur est apaisé parce que on a remis, on a eu un autre regard sur le mal. On a, voilà. Et en même temps, c'est important de dire que nos gestes de réconciliation, il faut rester très modeste. C'est des gestes avant-coureurs du moment où Dieu sera tout en tous. Mais voilà, que par moment, voilà, la colère puisse ressurgir, que des pensées mauvaises nous habitent contre telle ou telle personne qui nous... Voilà, ça fait partie de l'humaine nature et c'est tellement évident, quoi. Donc soyons modestes, c'est des gestes avant-coureurs de la réconciliation complète qu'on appelle le salut, où Dieu sera tout en tous. Alors je trouve que c'est beau que le Seigneur nous dise, voilà, ce que vous aurez lié sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce que vous aurez lié dans les cieux, ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire, ce que je vis ici retentit dans l'éternité. Vous voyez, ce que je vis ici, ça retentit dans l'éternité. Et d'où l'importance de la médiation. Hein. Vous savez, appeler deux ou trois témoins, appeler l'Église, etc. De façon à travers ces médiations, si on n'y arrive pas directement, à se faire aider. Alors on va demander au Seigneur cette grâce particulière d'être attentif à l'autre, à avoir soin de l'autre, à en prendre soin, au point d'un amour qui nous pousse jusqu'à lui dire de changer de comportement. Mais aussi dans les actes où on a reçu une blessure intérieure, où on sait bien la vie parfois nous donne des souffrances, etc., qu'on n'a pas forcément prévu, que l'on puisse avoir ce regard différent et cette conviction, c'est que à mesure que l'on pardonne, il y a quelque chose du royaume